Belle maman, pas de dessert, hein?
Ah, mais si, Paul, je peux me le permettre, moi.
Mais comment ça?
Mais j'ai mesuré ma glycémie avant repas avec mon nouveau lecteur OneTouch Select Plus, et je sais où j'en suis.
Avec le nouveau lecteur de glycémie OneTouch Select Plus, sa fonction avant ou après repas et son code couleur, vous savez à tout moment où vous en êtes, et vous pouvez profiter de chaque instant.
Rassurez-vous, Paul, les poignées d'amour vous vont à ravir.
OneTouch, à vos côtés pour avancer.
OneTouch Select Plus est un dispositif médical de diagnostic in vitro de LifeScan. Consultez la notice, contactez votre médecin ou votre pharmacien.
Allô Europe 1.
Oui, bonjour.
10h midi.
Il y a une question que j'aimerais poser.
Allô. Allô Europe 1.
Thomas Touroud.
Mes surdoués, vous les connaissez. Il s'agit évidemment d'Elisabeth Assayag. Ah oui. Salut Elisabeth.
Salut Thomas.
Ça
bonjour
va
à
vous étiez,
tous.
Vous étiez surdoué à l'école. Vous étiez une bonne élève.
Moi j'étais une bonne élève. Surdouée, je pense pas.
Non.
Mais une bonne élève.
Une bonne élève. Ouais. Je suis sûr que Roland, vous étiez un très bon élève à l'école.
Non, j'étais un élève plutôt sympa, mais en fait, moi, je suis doué pour le bonheur. Je suis pas forcément surdoué.
Oh, c'est vrai, c'est un optimiste.
Belle réponse. Voilà. Il est surdoué pour le bonheur, notre ami Roland. Ça va, Roland?
Ouais, super.
Merci d'être avec nous. En France, il y a 900 000 enfants qui seraient surdoués. Il y a presque un enfant sur deux par classe à l'école. Mais être surdoué, c'est loin d'être simple, c'est loin d'être évident à vivre au quotidien. Comment savoir si son fils, si ses enfants sont surdoués, comment vivre avec, comment l'accompagner, comment l'aider à grandir. On va en parler avec vous jusqu'à midi. C'est un sujet absolument passionnant. Nos spécialistes seront là pour vous écouter et répondre à toutes vos questions au 39-21. Mais comme chaque jour, et d'abord à 11h, c'est l'heure du répondeur juridique. Maître Pérez, le surdoué du... Comment s'appelle le gros bouquin de loi d'ailleurs là?
Du code civil.
Oui, du code civil. Non, c'est pas le...
Non, le Vidal, c'est les médecins.
Ah oui, voilà, c'est ça. C'est une erreur grossière que
non,
je viens de commettre.
Non, pas du tout. Le code civil. Vous voulez peut-être parler du Dalloz.
Le Dalloz, voilà.
Vous avez fait un peu de droit pour connaître le Dalloz.
Mais il a une culture générale bien fournie.
Oui, très bien.
Non, non.
Bravo.
Non, mais c'est le Dalloz, c'est vrai. c'est le répondeur de Roland. On y va.
Allô, Roland.
Oui, Roland, j'ai une question.
Allô, Roland.
Bonjour, Roland. Je vous appelle de La Celle-Saint-Cloud, je m'appelle Annie. Il y a quelques mois, j'ai fait repeindre, depuis des années que ça devait être fait, une chambre. Ça a fissuré au bout de un mois ou deux et je n'ai pas de recours, je ne sais plus quoi faire. Merci d'avance.
Alors. Bien sûr que vous avez un recours, Annie. J'espère juste que l'artisan est toujours en vie commerciale, on va dire, que sa société n'a pas déposé le bilan, mais vous avez bien évidemment un recours. Alors, je ne sais pas la raison pour laquelle la peinture est caillée. Visiblement, il y a une mauvaise préparation de cette chambre et une mauvaise préparation de la peinture. Vous allez regarder d'abord le devis. Vous allez demander à un copain un peu bricoleur de regarder un peu le devis, de regarder un peu ce qui a été fait. Et puis, vous allez nous envoyer une première mise en demeure, de revenir et de reprendre, ou de reprendre le travail et de le refaire, ou de vous rembourser une partie du prix. C'est votre droit. Il y a une garantie de conformité. Elle existe, cette garantie de conformité qui est de 1 an. Et cette garantie de conformité doit permettre et doit engendrer la reprise en main de cette chambre. Si vraiment il ne veut pas entendre raison après cette mise en demeure, vous pouvez saisir évidemment une association de consommateurs qui va vous aider et peut-être même avoir saisir le juge de proximité. Je peux vous dire qu'après tout cela, s'il n'intervient pas, c'est que je m'appelle pas Roland.
Merci beaucoup pour votre question.
Bonjour Monsieur Roland, je viens de me faire arnaquer sur Facebook par des brouteurs et je voudrais savoir comment puis-je procéder pour que je puisse récupérer mon argent. Merci.
Alors là on parle d'arnaque à l'affect, c'est ça?
Non,
c'est ce qu'on appelle un peu du phishing, du hameçonnage, c'est-à-dire des gens qui de faux documents vous font croire que c'est par exemple votre banque qui vous a écrit, votre caisse de sécurité sociale qui vous a écrit, la poste ou autre, et vous avez donné vos coordonnées bancaires ou vous avez effectué des opérations de virement pour aider prétendument des gens qui se prétendaient
en plus parfois
difficulté.
C'est très très bien fait.
Mais oui, parce qu'en ils ont piraté une adresse mail, ils vous font passer pour un ami que vous n'arrivez pas à joindre et cet ami vous demande au bout du monde de lui envoyer de l'argent parce qu'il est dans une situation très difficile. Ouais. Il vous dit même de ne prévenir qui que ce soit pour ne pas inquiéter les proches. Et on peut se faire avoir et envoyer de l'argent. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous devez d'abord, si vous avez donné vos coordonnées bancaires et notamment votre carte bancaire pour effectuer une opération, vous devez faire opposition sur votre carte bancaire. Ensuite, la loi aujourd'hui, pour tout ce qui est opération frauduleuse sur votre compte bancaire, oblige la banque à vous indemniser. C'est-à-dire que la banque, elle va porter plainte, elle va essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais elle doit vous indemniser, elle doit vous rembourser les sommes qui ont été visiblement prises sur votre compte. C'est la loi.
C'est la loi maintenant qui protège les clients. Merci pour votre question. Encore une question pour Monsieur Roland.
Bonjour Roland.
où je dois, sur ma feuille d'impôt, inscrire ce que je donne à madame, la pension alimentaire que je laisse à madame. Merci, au revoir.
C'est très clair, c'est très précis. Ouais, donc je vais tâcher de l'aide sur la déclaration d'impôt. Il y a une case qui s'appelle 6GU. 6GU. Et c'est là où on doit porter les pensions alimentaires qui vont vous permettre de réduire d'ailleurs vos impôts puisqu'elles sont déduites de vos impôts.
À question claire, réponse on ne peut plus claire de monsieur Roland à qui vous posez toutes vos questions sur le répondeur juridique. C'est au 39 21. Vous pouvez également, grâce à ce même numéro, déposer votre offre sur le répondeur emploi d'Allo Europe 1. Si vous êtes chef d'entreprise, si vous avez un restaurant, si vous avez un commerce, si vous avez une boutique, que vous avez du mal à recruter près de chez vous, dans votre ville ou dans votre village, n'hésitez pas, laissez votre offre sur le répondeur emploi d'Europe 1. Le numéro, c'est le 3921. On le diffuse tous les jours à 11h30. Donc tout à l'heure, vous entendrez les offres d'emploi du répondeur emploi d'Allo Europe 1. Et vous retrouvez évidemment toutes ces offres également sur europe1.fr. Une courte pause et dans un instant, un sujet absolument passionnant, les enfants surdoués. Vos témoignages, vos questions à nos spécialistes au 39 21. À tout de suite.
10h midi. Allô Europe 1.
Allô.
Allô Europe 1. Allô Europe 1.
Oui, bonjour.
10h midi.
Il y a une question que j'aimerais poser.
Allô. Allô Europe 1.
Thomas Touroud.
10h midi sur Europe 1, c'est Allô Europe 1, l'émission qui répond à toutes vos questions. Vous nous appelez au 39 21. Jean-Marc du Standard attend vos appels entre 11h et midi. C'est notre chapitre vie quotidienne et on parle des enfants surdoués. C'est un sujet absolument passionnant. Comment savoir si nos enfants sont surdoués? Comment les accompagner? Comment vivre avec eux? Comment les aider à grandir? Vos témoignages, vos questions au 39 21. On en parle avec Jeanne Siofachin qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Madame. Vous êtes psychologue, vous avez notamment écrit « L'enfant surdoué » aux éditions Odile Jacob et vous avez également créé la Zebra Alternative qui est un lieu d'accueil pour les enfants surdoués. Alexandra Reynaud est également avec nous. Bonjour madame.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous tenez un blog « Les tribulations du petit Zeb ». Vous êtes maman d'un enfant surdoué vous-même et vous racontez tout cela dans un livre « Les tribulations d'un petit zèbre, épisode de vie d'une famille à haut potentiel ». Alors zèbre, ça revient dans Zebra Alternative, ça revient dans les tribulations du petit zèbre. Pourquoi on appelle un surdoué, parce que j'imagine que c'est ça, un zèbre?
Bah, simplement pour pouvoir sortir des connotations habituelles. Effectivement, dès qu'on dit surdoué, on peut tout de suite avoir l'impression que ça fait allusion à un petit génie qui se devrait d'avoir quelque chose de plus que les autres, même si effectivement il y a plus de beaucoup de choses en même temps. Si on parle de HP en dehors de Harry Potter, on parle de haut potentiel et à ce moment-là, on peut aussi se dire que quelque part, si on a une potentialité plus élevée que la moyenne, il faudrait absolument pouvoir l'utiliser. Donc finalement, un zèbre, ça se repère facilement quand ça court, ça a un effet stroboscopique et on le voit plus. Et puis, peut-être que vous savez que les rayures du zèbre sont uniques, qu'il n'y a pas deux zèbres pareils. Et moi, ça m'intéresse beaucoup en tant que psychologue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux enfants pareils et que chacun doit être considéré dans sa différence, quelle qu'elle soit.
Unique. Vous réagissez au 3921, vos questions, vos témoignages et également sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter d'Allo Europe 1, hashtag Allo E1. Et on a une très bonne question de Tati Coqui qui va nous permettre d'amorcer ce thème de manière très intéressante. Quelle est la différence entre un enfant précoce et un enfant surdoué? Très très bonne question. Je vais poser la question à Alexandra peut-être, puisque vous-même, vous êtes maman d'un enfant surdoué.
Alors, pour moi, il n'y a pas véritablement de différence dans le sens où c'est une question de vocabulaire et tous ces termes, en fait, finalement renvoient à une même réalité. Quand on parle d'enfant précoce, on parle d'enfant intellectuellement précoce. On a raccourci ça à enfant précoce, mais dans la réalité, ça renvoie à la même chose. Ça renvoie à zèbre, ça renvoie à haut potentiel, ça renvoie à... Le problème, c'est que souvent les gens comprennent la précocité comme quelque chose qui va être un développement en avance et qui ensuite va se perdre. Or, ça n'est pas la réalité. Donc moi, c'est un terme, par exemple, que j'aime pas tellement, mais quand on parle d'enfants précoces, on parle d'enfants surdoués et ce sont des enfants qui restent à haut potentiel intellectuel. La chose ne se perd pas, en fait, en grandissant.
Jeanne Siofachin, qu'en pense la psychologue?
Exactement la même chose et je rajouterais simplement que, en fait, le terme de enfant intellectuellement précoce avec le sigle EIP est le terme qui a été choisi par l'éducation nationale parce que c'est politiquement plus correct de parler d'enfants précoces. Mais comme le dit Alexandra, ça voudrait dire que les enfants auraient un développement cognitif plus important et après que finalement un peu comme la puberté précoce ou
ça passe. Or, c'est pas du tout le cas.
Justement, et c'est ça qui est important, c'est la singularité de fonctionnement qui va faire toute la différence et c'est ça dont on va parler.
Nadège nous appelle de Strasbourg au 39-21. Bonjour Nadège.
Bonjour.
On vous écoute, ma chère Nadège.
Alors voilà, j'avais une question concernant justement mon petit garçon qui a 7 ans.
Oui.
Alors en fait, ce qui nous pose problème à son papa et à moi, c'est-à-dire qu'à l'école, il est très à l'aise, ça c'est certain, mais on ne peut pas dire qu'il soit surdoué.
Ouais.
Par contre, dans la vie de tous les jours, il a des réactions justement très matures. Il a des attitudes pas dignes d'un enfant de 7 ans. Et justement, on m'a souvent conseillé de le faire tester.
Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que vous avez des exemples un peu concrets à nous donner sur ces réactions dont vous parlez?
Disons, il a un sens de l'analyse sur des choses comme par exemple nous rassurer nous-mêmes sur par exemple je pars en voyage, je suis contente, je me fais flasher, alors je suis embêtée, il me dit mais pense à ton voyage, que tu as passé des bons moments, ne pense pas,
il est formidable votre fils.
Donc du coup c'est vrai que son papa et moi des fois on est un petit peu déconcertés, on sait pas trop comment le prendre. Et il a que 7 ans.
Et quelle attitude avoir à son égard. Alors ça aussi, c'est important et c'est intéressant. On parlait de précocité, précoce, surdoué. Là, il y a mature, surdoué. Comment on peut faire la différence? C'est une nuance qui est très très intéressante.
Oui, c'est une nuance intéressante, mais vraiment importante parce qu'effectivement, on ne parle pas de la même chose. Et là, effectivement, quand Nadège parle de son petit garçon, elle parle d'un enfant finalement qui a une espèce de vision en grand angle sur le monde et qui a cette capacité d'analyser très rapidement énormément de composantes et en particulier des composantes émotionnelles. C'est-à-dire en particulier l'empathie, la capacité à ressentir les émotions des autres, la capacité donc de pouvoir anticiper ce qui va pouvoir se passer.
L'empathie en l'occurrence, c'est pas quelque chose qu'on développe quand on a 7 ans normalement
C'est-à-dire que oui, ça se développe bien sûr de toute façon tout au long de la vie, mais il y a en revanche là une maturité plus importante chez les enfants précoces et les enfants surdoués, peu importe, les zèbres, peu importe la terminologie précisément, mais en tout cas l'empathie chez ces enfants là, chez ces adultes-là, est toujours beaucoup plus importante, ce qui peut compliquer le rapport au monde dans l'ajustement. Parce que c'est compliqué dans la vie quand vous percevez en permanence ce que ressentent les autres.
C'est compliqué. Bien sûr. Mais alors justement, la question de Nadège, là, il faut y répondre également. Est-ce utile de le faire tester, entre guillemets, Alexandra?
Moi, je pense que quand il y a un doute, quand les parents ont un doute ou quand l'école signale quelque chose, il faut effectivement aller consulter un psychologue et le test. Ce qu'on appelle les tests psychométriques, dits de QI, c'est la seule manière de toute façon de valider ou d'écarter un haut potentiel intellectuel. D'autre part, je voulais dire à Nadège qu'un surdoué, c'est pas forcément un élève en grande réussite scolaire. Hein. Mm-hmm. Il faut vraiment bien faire la différence. Il y a des profils très différents et il y a des enfants qui sont pas spécialement fascinés par l'école ou qui sont pas très scolaires sur le fonctionnement en fait, de ce qui se passe.
Ça, sur ce point, les différents profils d'enfants surdoués, on va en parler. Ça aussi, c'est formidable. Intéressant, c'est passionnant. Juste après une courte pause, vous nous appelez vos témoignages, vos questions au 39-21 et on embrasse Nadège à Strasbourg.
10h midi, Allô Europe 1.
Allô ?
Allô Europe 1. Allô Europe 1.
Oui, bonjour.
10h midi.
Il y a une question que j'aimerais poser.
Allô ?
Allô Europe 1.
Thomas Touroud.
On parle des enfants surdoués dans Allô Europe 1, c'est passionnant. Vos questions, vos témoignages, 39-21. Gloria Gaynor.
You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with the fire?
Gloria Gaynor, I Will Survive sur Europe 1.
Allô ?
Allô Europe 1 ?
Allô Europe 1 ?
Oui, bonjour.
10h midi.
Il y a une question que j'aimerais poser.
Allô ?
Allô Europe 1 ?
Thomas Touroud.
On parle des enfants surdoués dans Allô Europe 1 jusqu'à midi. C'est un sujet absolument passionnant. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous appeler au 39-21. On en parle avec Jeanne Siofachin qui est psychologue et avec Alexandra Reynaud qui est maman d'un enfant surdoué. On parle des enfants surdoués mais pas seulement. Regardez cette réaction sur le compte Twitter d'Allô Europe 1. Hashtag Allô E1. C'est Lily qui nous dit bonjour. Diagnostic tardif, 35 ans. Qu'en faire alors?
Alors c'est pas très tardif, 35 ans. Hein, moi mon plus vieux patient a 82 ans, donc tout va bien.
Ah oui.
Et oui, et il dit que tous les matins maintenant, quand il ouvre ses volets, il a l'impression qu'il vit dans une vie en couleur, alors qu'il a passé toute sa vie, c'est selon ses mots, à avoir cette sensation de vivre dans une vie en noir et blanc. Donc je crois que c'est très important.
Pourquoi il dit ça?
Parce que en fait, enfin il a compris comment il fonctionnait.
D'accord.
Enfin il a ressenti pourquoi il avait senti pendant toutes ces années cette sensation de décalage, de différence, d'ennui global dans la vie et enfin de comprendre, il a eu la sensation qu'il pouvait se saisir de la vie qui était là. Donc 35 ans, c'est formidable.
C'était libérateur pour
lui,
vraiment.
Très libérateur. Ouais. C'est souvent ce que les adultes disent en disant j'ai eu l'impression qu'un voile se déchirait.
Ouais.
Et c'est très important dans la vie, qui que l'on soit, de savoir qui on est pour savoir où on va.
Mais je cherche toujours, moi.
Eh ben,
j'ai pas encore trouvé.
Thomas,
je pense
welcome.
Que je suis pas surdoué. Ça, j'en suis certain.
On sait pas. Ça m'étonne.
Je me compare à Roland Pérez, je vois bien que, il s'est passé un truc, hein.
Je pense que vous êtes un surdoué de la radio, quand même. Hein.
C'est gentil. Merci beaucoup. Ingrid nous appelle de Dammartin. Bonjour, ma chère Ingrid. On vous écoute.
Bonjour. Alors, moi, je vous appelle parce que j'avais une question. J'ai une petite fille, un peu comme dans le témoignage précédent.
Oui.
Qui va avoir 7 ans, qui était l'année dernière en dernière année de maternelle. Elle a développé en dernière année de maternelle des angoisses, elle avait très mal au ventre, et ça se démontrait au moment juste avant d'aller à l'école, et c'était tous les jours des crises de larmes, etc. Donc à un moment, quand avec sa maîtresse, on s'est trouvé un peu dépourvu, on comprenait pas ce qui se passait, et la journée à l'école, ça se passait bien en revanche. C'était vraiment au moment où je la laissais. Donc je l'emmenais consulter la psychologue de la ville, qui l'a vu, qui a déjà calmé ses angoisses, donc ça c'était déjà très bien, et qui a ensuite, selon elle se demandait si elle n'était pas précoce. Mais elle m'a dit, de toute façon, c'est trop tôt pour la tester, il faudrait mieux le faire en CP.
Oui.
Donc moi j'ai prévenu la psychologue scolaire qui l'a observée et qui elle effectivement a vu qu'elle était éveillée mais elle n'a pas forcément émis ce doute sur la précocité. Donc moi la question que je me pose aujourd'hui, elle a toujours de temps en temps ses maux de ventre, alors ça va beaucoup mieux sur les crises d'angoisse.
Oui.
Effectivement on voit bien que c'est une enfant qui est une analyse. Pour la petite anecdote, un matin j'écoutais Europe 1, une analyse économique qui parlait de la marge de manœuvre des entreprises et de les réinvestir plutôt dans l'innovation que dans les salaires, et 20 minutes après elle me dit, mais au fait, maman, tu vas faire quoi, toi, avec ta marge de manœuvre?
Je veux dire aussi que Europe 1 est très clair.
Voilà, et j'avais pas l'impression qu'elle écoutait, mais effectivement, elle enregistre, elle s'intéresse beaucoup au présidentiel, là. Et du coup, moi, ma question, elle est, je me dis, bon, est-ce que c'est la peine que je la fasse tester? Et si je la fais tester et qu'effectivement, on confirme cette précocité, qu'est-ce que ça va changer pour elle?
Alors,
tant qu'elle ne manifeste pas ces angoisses-là qui étaient handicapantes l'année dernière.
Bah on va peut-être demander à la fois à la maman Alexandra Reynaud et puis à la psychologue Jeanne Siofachin. Comment on peut répondre à Ingrid?
Alors moi, je crois qu'il faut bien, distinguer les deux choses. Ingrid, bien sûr, comme vous l'avez bien compris, le fait que votre petite fille ait mal au ventre avant d'aller à l'école, ça peut avoir un lien avec mille et une choses. Hein, et c'est pas parce qu'on a mal au ventre avant d'aller à l'école qu'on est surdoué.
Ça peut être le stress, on l'évoquait avant dans l'Europe 1.
Le stress d'aller à l'école, malheureusement, il y a de plus en plus d'enfants qui sont stressés à l'école. Ouais. Donc voilà.
Et le fait qu'elle soit éveillée, qu'elle rebondisse comme ça sur ce qu'elle entend sur Europe 1.
Peut-être, mais effectivement, elle a vu une psychologue qui a émis une hypothèse. Moi, après, ce sont vraiment un ensemble d'éléments. Poser un diagnostic, c'est un faisceau de signes, c'est pas sur un aspect.
Ouais, ouais.
Donc je crois que ce qui est important, après, si plusieurs fois la maman se retrouve en difficulté avec cette petite fille et a besoin d'avoir un éclairage pour l'aider, parce que faire un bilan, c'est pour pouvoir accompagner au mieux son enfant et pouvoir être plus dans la prévention que dans l'intervention. Il vaut toujours mieux savoir avant plutôt que d'intervenir après quand rien ne va plus.
Ouais. Alexandra Reynaud. Il faut rassurer Ingrid aussi.
Oui, je dirais un petit peu. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que Jeanne vient de dire. Alors, qu'est-ce que ça apporterait à cette petite fille dans l'hypothèse où elle soit concernée, évidemment, ça lui permettrait finalement de grandir en sachant qui elle est et en ayant des parents qui peuvent l'accompagner en ayant finalement un tableau assez complet, de ses besoins. C'est-à-dire que le truc, c'est que
ça n'est pas obligé d'attendre 80 ans comme vous le disiez.
Voilà,
avec votre patient. l'information.
Où on n'est pas obligé d'attendre non plus qu'il y ait un vrai problème, parce qu'effectivement, c'est toujours plus compliqué d'intervenir quand ça va très très mal, ouais, en définitive. Maintenant, je conseillerais moi, ouais, personnellement aussi, en général, je mets souvent en garde sur mon blog par rapport aux psychologues scolaires, qui sont quand même en général plutôt formés pour les enfants qui ont des grandes difficultés, plutôt que pour la passation de tests. Je pense qu'il vaut mieux se tourner vers un psychologue, ouais, qui soit spécialisé, et à ce moment-là, on peut avoir des adresses gratuitement auprès des associations, ouais, qui tiennent des listings. Et je pense qu'il faut quand même prendre en compte le fait qu'un, ouais, psychologue spécialiste de la question du haut potentiel sera plus à même, en fait, de, même sans faire passer de bilan, juste pour répondre déjà.
De diriger, diriger une grille vers le bon psychologue en l'occurrence, et puis le bon diagnostic en l'occurrence.
Exactement. Ouais.
Merci beaucoup Ingrid pour votre appel et votre témoignage. Vous continuez à nous appeler au 3921. On revient dans un court instant. À tout de suite.
10h midi, Allô Europe 1.
Allô Europe 1.
Oui, bonjour.
10h midi.
Il y a une question que j'aimerais poser.
Allô Europe 1.
Thomas Touroud.
On parle des enfants surdoués. On évoque depuis le début de cette heure les tests de précocité. Combien ça coûte un test de précocité?
Alors ça coûte, tout dépend de ce qu'on fait, parce qu'il, ouais, faut non seulement faire une échelle d'intelligence, une échelle de ce fameux QI, hein, ce, ouais, quotient intellectuel, mais aussi des épreuves de personnalité pour avoir une carte du territoire global, et, ouais, ça peut coûter entre 150-200 euros jusqu'à 400-500 euros à peu près.
D'accord, donc ça a un coût important.
Oui, c'est un coût, mais c'est énormément d'heures, c'est-à-dire c'est énormément d'heures de travail, c'est, ouais, énormément d'heures de rencontres
pour
avec l'enfant.
Pour déterminer un profil unique.
Voilà, absolument Thomas, absolument.
Je vous écoute. Hein, vous avez...
Très bien Thomas, très bien.
11h30, c'est l'heure des trois infos pratiques d'Elisabeth.
Allô Europe 1.
Les trois infos pratiques.
Vous aviez une question, Elisabeth?
Oui,
je suis désolée.
C'est pas grave, vous parliez de quotient intellectuel. Moi, je voulais vous demander si dans tous ces tests, cette batterie de tests, vous mesuriez le quotient émotionnel. Parce qu'il y a beaucoup de pays anglo-saxons qui prennent en, ouais, compte. Alors, les émotions qui sont un facteur aussi de précocité.
C'est bien pour ça que j'insistais sur le fait que de faire simplement un test de QI est tout à fait inutile. Parce que c'est avec ça, l'éclairage du fonctionnement émotionnel, qu'on va comprendre le profil d'un enfant et d'un adulte. Et c'est ça
donc
qui va faire la différence. Et c'est
émotions,
ça qui va permettre de faire ce qu'on appelle dans notre jargon un diagnostic différentiel, c'est-à-dire faire la différence entre quelqu'un qui serait surdoué, quelqu'un qui serait seulement
sensible,
très intelligent, quelqu'un qui serait simplement sensible,
voilà,
etc.
C'est important de noter la différence.
Alors, les infos pratiques,
alors,
on y va.
Allez,
Je suis désolé. On commence avec ce décret qui vient de paraître au Journal officiel.
Alors, si vous faites partie de ces salariés qui vapotent au bureau, vous savez ce que ça,
oui,
veut dire, vapoter?
Tout à fait, tout à fait.
Voilà, hein, c'est le fait de respirer exactement, uh-huh, votre cigarette électronique. Et bien, depuis mercredi, il est strictement interdit, c'est l'interdiction du jour, parce qu'on a, ouais, des interdictions tous les jours, ouais, d'utiliser votre cigarette électronique à l'école, dans les transports, donc dans les bus, les trams ou les métros, ainsi qu'au bureau, surtout si vous travaillez en open space, en espace ouvert avec plein de monde. Et si vous avez tout de même envie de votre petite cigarette électronique, eh bien vous risquez de recevoir une amende de 150 euros. Ouais. Et plus encore, dans les bureaux et dans les gares, il faudra qu'un panneau signale l'interdiction du vapotage, sinon là aussi,
en fait,
amende.
C'est Maître Pérez, c'est comme avec les cigarettes normales.
Oui, voilà. L'interdiction de fumer, mais même dans les restaurants, je suis pas sûr que les restaurants.
Non,
sont...
les restaurants ne sont pas encore,
voilà,
concernés.
Voilà,
on parle d'espace public et de l'environnement professionnel.
Oui. La voiture neuve coûte de plus en plus cher.
Et oui, c'est l'enquête du journal L'Argus qui révèle ce chiffre. En 2016, le prix moyen d'une voiture neuve a augmenté de 720 euros pour s'établir à 25 828 euros. Donc, oui, c'est cher. Donc, monsieur et madame, tout le monde l'achète de moins en moins en cash ou même avec un crédit classique, et ce sont les LOA, les locations longue durée. C'est ce qui fait qu'on peut se permettre aujourd'hui de changer de voiture tous les 3 ans sans se prendre un crédit de 10 ans. Mais savez-vous aussi que vous pouvez tout de même négocier le prix de votre voiture neuve directement chez le concessionnaire, hein, jusqu'à 25% de remise. Et c'est ce que nous dit le spécialiste auto Philippe Doucet.
Ce qu'il faut dire, c'est que quand même c'est très cher. Ça fait beaucoup d'écart par rapport au dernier modèle. Les options, vous vous rendez compte, c'est une fortune. Donc il faut qu'on parle des options. On peut par exemple aussi avoir des options gratuites. Ça, c'est une bonne façon de gagner de l'argent. Généralement, il va vous proposer une remise si la voiture est remisée. Et puis, dans un deuxième temps, vous essaierez d'avoir un petit peu plus. En disant ça me paraît beaucoup, pas beaucoup. Bon, écoutez, j'arrête. On se revoit la semaine prochaine. Je vais faire un petit tour de la place.
Voilà. Pas mal la technique.
Ouais, la technique de négociation technique. Pour avoir sa voiture un petit peu moins chère que le prix affiché.
Et on termine avec une appli de location de vacances.
Oui, il s'agit d'un comparateur de logements de vacances. Ah, c'est bien, très pratique. Ça s'appelle holidu.fr. H-O-L-I-D-U.fr. Et dedans, il y a une fonction qui vous permet de trouver la location idéale pour vos vacances, surtout quand vous décidez de partir avec des amis. Vous savez, vous partez avec 2-3 couples d'amis. Au lieu de vous envoyer des tonnes de mails, et moi j'ai vu celle-ci, celle-là elle est moins chère, là il y a 3 chambres, là il n'y a pas de piscine. Eh bien, chacun sélectionne les biens qui lui plaît. Chaque membre du groupe vote. Pas besoin d'échanger des tonnes de mails et c'est le moteur de recherche qui trouve pour vous la location idéale.
Pas mal,
pas mal, hein,
pas mal du tout. Merci beaucoup, ma chère Elisabeth.
Allô,
allô Europe 1.
Allô Europe 1.
Oui, bonjour.
10h midi.
Il y a une question que j'aimerais poser.
Allô, allô Europe 1.
Thomas Touroud.
À 11h30 tous les jours dans Allô Europe 1, notre nouveau rendez-vous, le répondeur emploi d'Allô Europe 1. Si vous êtes chef d'entreprise, si vous avez un commerce, un restaurant, une boutique et que vous avez du mal à recruter près de chez vous, dans votre ville, dans votre village, n'hésitez pas à nous laisser un message sur le répondeur emploi d'Allô Europe 1 au 3921. Nous diffusons gratuitement vos offres et on commence tout de suite.
Bonjour Thomas.
Bonjour Thomas.
Le répondeur emploi d'Allô Europe 1.
Bonjour Thomas, Didier de l'entreprise Didier Nettoyage de Lyon 7e recherche une personne disponible tous les jours de 6h à 12h pour faire du ménage dans la région Rhône-Alpes. N'hésitez pas à m'appeler, je vous remercie.
Salut Didier, merci beaucoup de votre offre. Si vous cherchez du travail à Lyon dans le nettoyage, il y a donc du boulot. Vous allez sur europe1.fr et vous avez la référence de l'annonce de Didier.
Bonjour Thomas, c'est Baptiste du restaurant La Tour à Sancerre. Donc on est étoilé depuis 2011 et on est à la recherche d'un second de cuisine, d'un chef de partie et d'un commis de cuisine. Voilà, bonne journée, merci.
Merci Baptiste pour votre annonce. Restaurant étoilé, 3 postes à pourvoir à Sancerre.
Hein.
Il faut bien le noter. Donc vous allez sur europe1.fr et sur les réseaux sociaux, la page Facebook d'Allo Europe 1. Il y a du travail dans la restauration à Sancerre chez un étoilé. Merci beaucoup Baptiste pour votre offre d'emploi.
Bonjour Thomas, je suis Madame Lambert de l'agence Lambert. Notre agence est en Vendée. Je recherche régulièrement toute l'année des couples de jeunes seniors à la retraite pour s'occuper de très belles propriétés, de beaux domaines. Dans divers départements, nous avons en ce moment beaucoup d'offres, également pour des actifs ou des employés de maison. Merci de nous aider. À bientôt.
Merci beaucoup Madame Lambert de l'entreprise Lambert en Vendée. Donc ça, c'est, on l'avait évoqué, ça c'est les compléments de retraite quand il y a des seniors qui ont encore la forme, la pêche et qui veulent compléter leurs revenus.
Absolument, et d'autant plus qu'on peut cumuler aujourd'hui emploi et retraite, et socialement et fiscalement, c'est très intéressant.
Merci beaucoup pour cette offre. Il y a du boulot, hein. Il y a des offres également qu'on a diffusées hier dans le premier répondeur emploi d'Allo Europe 1. Vous les retrouvez toutes ces offres sur europe1.fr et vous nous appelez si vous-même vous avez des offres à proposer. Il y a du travail, le numéro c'est le 3921. On se retrouve dans un instant pour continuer à parler des enfants surdoués. On répondra à vos coups de fil, à vos questions au 3921. À tout de suite.
10h midi, Allô Europe 1.
Allô,
allô Europe 1.
Allô Europe 1.
Oui, bonjour.
10h midi.
Il y a une question que j'aimerais poser.
Allô, allô Europe 1.
Thomas Touroud.
Jusqu'à midi, on parle des enfants surdoués. Vos témoignages, vos questions au 3921. En attendant, le tout nouveau Calogero, je joue de la musique.
Ça vient de je ne sais où, c'est comme un condor dans ma tête. Ça me prend, ça me rend fou. C'est comme un pick-up dans ma tête. Je ne pense qu'à ça. 4, 3, 2, 1, je joue de la musique. Je respire musique. Je réfléchis musique. Je pleure aux musiques. Et quand je panique, je joue de la basse électrique. Je fais l'amour en musique, je t'aime en musique. Et quand je panique, je branche ma guitare électrique. Ça jaillit un peu partout, c'est comme un volcan dans ma tête. Parfois je sais pas pour vous, mais moi ça tempère mes tempêtes. Je perds mes repères. 4, 3, 2, 1, je joue de la musique. Je respire musique. Je réfléchis musique. Je pleure en musique. Et quand je panique, je joue de la basse électrique. musique. Je joue de la musique. Je sens la musique. Je fais la musique. Je t'aime en musique. Et quand je panique, je range ma guitare électrique.
Je fais l'amour en musique. Vous faites l'amour en musique, Roland ?
Ça m'est arrivé.
ça vous arrive encore, quand même ?
Je veux dire, l'amour, oui.
Oui.
Mais ça m'est arrivé de faire en musique.
Oui, il en a renversé son café.
J'en ai renversé mon café. J'imaginais Roland faire l'amour en musique. J'ai renversé
en
mon
rythme,
café.
Vous voulez dire.
En rythme.
Mais sur Calogero.
Calogero, oui. Pas mal du tout. On aime Calogero. Il est tout neuf, tout nouveau. C'est quasi une exclue dans Allo Europe. Je joue de la musique, Calogero.
Allô Europe 1.
Oui, bonjour.
10h midi.
Il y a une question que j'aimerais poser.
Allô Europe 1.
Thomas Touroud.
Jusqu'à midi, on parle des enfants surdoués avec la psychologue Jeanne Siofachin et la maman de surdoué, Alexandra Reynaud. Mélanie nous appelle de Gambéo, 39-21. Bonjour Mélanie.
Bonjour.
On vous écoute, ma chère Mélanie.
Alors voilà, moi j'ai une petite fille de 11 ans que j'ai fait détecter il y a 3 mois à peu près.
Oui.
Et qui effectivement s'est avérée surdouée ou avec un QI de 128. Mmh. Mais elle avait dans ses résultats c'était des résultats hétérogènes, on va le dire comme ça. Et elle a été en même temps détectée dyspraxique. Et c'est une petite fille qui, depuis qu'elle est rentrée en collège, est en souffrance permanente. Alors j'ai décidé de la changer de collège là pour voir un petit peu si elle se sentait mieux. Elle a une grande facilité d'élocution, mais j'ai l'impression que le collège jusqu'alors a mis, vous savez, un peu un couvercle sur elle. D'ailleurs, un professeur a dit quelque chose de très éloquent au début d'année. Il m'a dit « La première fois que j'ai parlé avec votre fille, j'ai cru qu'elle était surdouée.
Oui. »
Bon, après, quand j'ai vu ses résultats, j'ai compris qu'elle ne l'était pas. Hein.
Ah, c'est très,
finalement,
très...
Ça...
Ouais, c'est très intéressant ce que vous dites, Mélanie, parce que là, on a toujours cette idée reçue comme quoi les élèves surdoués réussissent parfaitement à l'école. Ce n'est pas forcément le cas, et pas toujours en l'occurrence, Jeanne.
Oui, bien sûr, mais il y en a qui réussissent très bien à l'école,
bien sûr,
aussi,
oui.
Bien évidemment. Mais ça, ce qui est intéressant dans ce témoignage, c'est le fait de ressentir dans l'élocution de cette petite fille, dans sa façon d'être, qu'elle avait effectivement ce profil de surdouée, et malgré tout, elle est en difficulté parce que il y a des troubles associés. Et ça, c'est très important. Cette petite fille a été diagnostiquée dyspraxique, donc on peut avoir ce profil de surdouée et avoir ce qu'on appelle un trouble des apprentissages, comme la dyspraxie, comme par exemple Thomas renverser son café par inadvertance, parce que voilà, ça tombe.
Je suis sûr et certain.
En tout cas, d'avoir un profil hétérogène, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au test de QI, à partir du moment où on a un profil hétérogène, ce qui veut dire, pour les auditeurs qui ne sauraient pas de quoi on parle, d'avoir des scores différents
dans les émotions ou dans les tests de mathématiques.
Y compris dans les tests de QI, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs facettes de l'intelligence qui sont explorées.
Ouais.
Et on peut avoir des scores très élevés pour certaines facettes
en
de
logique,
l'intelligence,
par exemple.
Et puis avoir des scores plus faibles dans d'autres secteurs de l'intelligence. L'intelligence est multifactorielle, bien évidemment. Et quand il y a des...
Mais alors comment on peut, pardonnez-moi Jeanne, mais comment on peut aider Mélanie avec sa fille de 11 ans qui a déjà changé de collège, ça va un petit peu mieux aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? Alexandra, je crois que votre fils lui a sauté 3 classes, votre fils Elijah.
Oui, c'est ça, il a sauté 3 classes. Alors, lui n'a pas véritablement, à proprement parler, de troubles associés. Il a aussi un syndrome d'Asperger, mais je ne le classe pas, moi, dans les troubles associés. Le problème est justement à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre un enfant à haut potentiel qui n'a pas de troubles, qui ne va pas forcément être purement scolaire, mais qui malgré tout n'a pas de troubles d'apprentissage, et un enfant qui aura des troubles d'apprentissage et pour lequel ça va venir compliquer un petit peu la relation qu'il a avec l'école. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il existe plusieurs moyens d'action, alors après, à des degrés très différents. Par exemple, il existe en France, dans chaque académie, un référent, en général, c'est un inspecteur ou une inspectrice qui est référent pour les enfants à besoins dits spécifiques. On peut se tourner vers lui pour essayer de trouver des solutions avec l'équipe enseignante. Ouais. Son rôle, c'est de faire le lien justement entre la famille et l'établissement.
Alors, Elisabeth. Par exemple, justement, pour les établissements, j'ai trouvé le réseau Précoce, PRECOS, que vous connaissez peut-être. Bon, ce sont des établissements privés, mais il n'empêche que c'est un réseau qui regroupe tous les établissements dans lesquels on fait attention, on prend en charge les enfants précoces. Il y en a à Paris, à Rennes, à Aubenas, et c'est spécialisé.
Oui, alors le gros souci, c'est que...
Il n'y en a pas partout, mais c'est le problème.
Il y en a un peu partout. Alors, le gros souci, c'est que ça reste quand même... Ça peut être loin, c'est-à-dire quand on habite Paris par exemple, on va avoir plus de facilité à trouver un établissement EIP friendly ou vraiment qui aura un accueil spécifiquement pour les enfants doués.
Un peu personnalisé finalement.
Ou même très personnalisé selon. Mais quand on habite, par exemple, moi je suis en dessous de Lyon et autour de moi il n'y en avait pas du tout. Donc il a fallu faire autrement tout simplement. Le site Précoce est très très bien fait, mais ça, malheureusement, des fois, les gens sont pas forcément à proximité.
Merci beaucoup, Mélanie. Merci de votre appel et de votre témoignage. Olivier nous appelle de Tours. Bonjour, Olivier.
Oui, bonjour Thomas, bonjour Elisabeth et bonjour votre invité dont j'ai oublié le prénom.
Alors, il y a Jeanne et il y a Alexandra. Ce sont d'ailleurs deux très jolis prénoms. On vous écoute, Olivier.
Alors, je vous appelle parce que ma sœur, en fait, a 5 enfants et qui correspondent chacun à des profils de tout ce qu'on a parlé dans l'émission, en fait, un résumé. Ouais. Donc, la première personne, c'est une fille qui est née, elle, on n'a rien détecté, tout se passait à peu près correctement, mais elle a eu un petit frère et qui était autiste. Et donc, lui, il avait un comportement étrange et puis elle, grandissant, elle a eu un comportement où elle était renfermée, quand on venait la voir. Bon, elle se mêlait pas aux gens et puis elle avait l'air de tout le temps faire la tête. Et ensuite, elle a eu un troisième enfant, quatrième enfant, cinquième enfant. Et l'autisme, donc, lui, au moment où ça a été détecté et qu'on l'a compris, on a aussi fait des tests de QI parce que ça semblait évident à ce moment-là qu'il était surdoué. Et c'était bien le cas. À un niveau vraiment très important, à partir de là, on nous a dit que les autres enfants qui pouvaient avoir des soucis comme sa grande sœur, il y avait de grandes chances que quand dans une famille, quelqu'un est surdoué, que les frères et sœurs le soient.
Alors voilà, c'est un point qu'on n'a pas encore abordé. Merci Olivier de votre appel et de votre témoignage, très important. Est-ce que cette famille, entre guillemets...
Oui, bien sûr, il y a une composante génétique. Ouais. Ça ne veut pas dire non plus qu'un papa et une maman surdouée feront une ribambelle de petits-enfants surdoués. Ouais. La génétique est heureusement éminemment plus complexe que ça, mais oui, il y a une composante génétique. Et oui, on peut effectivement avoir des familles comme ça, ou d'ailleurs on peut avoir... moi, ça m'est arrivé très souvent en consultation de rencontrer une famille dans laquelle il y avait un enfant qui était déficient intellectuel et un enfant qui était surdoué. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est des combinaisons génétiques un peu singulières.
Merci beaucoup Olivier de votre appel. Merci d'avoir mis le point sur cette question essentielle. On se retrouve dans un instant, 39-21, pour vos témoignages et vos questions à nos invités.
Europe 1, 10h midi, Thomas Tourou.
Allô ? Allô Europe 1 ?
Allô Europe 1 ?
Oui, bonjour.
10h midi.
Il y a une question que j'aimerais poser.
On est avec vous jusqu'à midi en direct pour parler des enfants surdoués avec Jeanne Siaud-Fachin qui est psychologue et avec Alexandra Reynaud qui est maman d'un enfant surdoué. Il y a Fabrice qui nous appelle de Toulouse. Mon cher Fabrice, vous avez un témoignage à nous apporter. Bonjour.
Bonjour. Eh bien oui, j'ai été un enfant surdoué, mais à part que maintenant j'ai 43 ans et qu'à mon époque... on le détectait pas spécialement, donc on a surtout dit que j'étais un enfant casse-bonbon, exactement, parce que j'avais 19 de moyenne partout, mais j'enchaînais les conseils de discipline et toutes ces choses-là. À 12 ans, phobie scolaire, et à 30 ans, grosse dépression, parce que tout simplement, je trouvais que j'étais inadapté dans le monde qui m'entourait. Et je suis tombé sur un psychiatre qui a eu l'intelligence peut-être de me détecter ou en tout cas de me faire tester. Et à la finalité, un peu plus de 160 de QI, diagnostiqué hypersensible. Et donc, depuis qu'on m'a appris ça, il y a une énorme chape de plomb qui est tombée. J'ai enfin compris pourquoi j'étais en échec jusqu'à cet âge-là de 30 ans.
Et ça vous a libéré.
Ah bah oui, ouais. J'ai recommencé mes études. Maintenant, je suis directeur commercial dans une entreprise et j'encadre justement des commerciaux.
Ouais.
Grâce à cette hypersensibilité, quand ils bougent un cil, pour moi, ça me donne des informations. Le moindre changement d'odeur dans leurs émotions ou quoi que ce soit, je le détecte tout de suite.
Ouais.
Mais il faut vraiment faire attention parce que non, quand on est un élève précoce ou potentiel intellectuel, un zèbre, si on n'est pas spécialement détecté ou si on n'est pas spécialement entouré, on n'est absolument pas performant à l'école.
Ouais, passer un test, bien sûr, c'est important et ça peut libérer. C'est ce qu'on disait effectivement tout à l'heure. Fabrice soulève aussi un point important avec son témoignage. C'est le refus de l'autorité et ça se manifeste souvent chez les enfants surdoués. Alexandra, Jeanne.
Jeanne.
On y va.
Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que ce sont des enfants qui ont une espèce de rage de savoir et de savoir-faire,
ouais.
Et qui ont une forme de besoin de contrôler, de maîtriser l'environnement, et qui en plus, avec leur grande intelligence, leur grande analyse, ont souvent cette sensation qu'ils savent comment il faudrait faire. Donc, en fait, ils peuvent avoir tendance à vouloir imposer leur façon de faire, et souvent ils ont raison. Mais quand en face, il y a quelqu'un qui va se crisper par rapport à ça. C'est là où il va y avoir des difficultés. Je crois que justement, ce sont des enfants, des adultes qui ont considérablement besoin, comme chacun d'entre nous, qu'on les écoute, qu'on entende ce qu'ils ont à dire et qu'on puisse leur permettre de reprendre confiance dans ce qu'ils sont pour pouvoir exprimer pleinement leur envie d'avancer. Parce qu'ils ont tous envie d'avancer. Et moi, je voudrais quand même dire, avant que cette émission se termine, qu'être surdoué, c'est pas une pathologie.
Et que
c'est aussi énormément de puissance, énormément d'intensité, énormément de possibilités et qu'il faut donner à chacun les moyens de réussir sa vie.
Message très positif de Jeanne Siofachin pour conclure ce thème passionnant qu'étaient les enfants surdoués. Je rappelle les titres de vos ouvrages. L'enfant surdoué, l'aider à grandir, l'aider à réussir. C'est exactement ce que vous venez de nous dire. C'est chez Odile Jacob. Et puis Trop intelligent pour être heureux, l'adulte surdoué chez Odile Jacob également. On remercie Fabrice. Merci beaucoup Madame Jeanne Siofachin. Et puis Alexandra Reynaud, je dis le titre de votre livre, c'est Les tribulations d'un petit zèbre. Moi, j'aurais vraiment appris qu'un surdoué, c'est un petit zèbre. Et on l'embrasse très fort, votre petit zèbre à vous. Merci beaucoup, Alexandra. Merci d'avoir été avec nous. Merci, ma chère Elisabeth. Merci, Monsieur Roland.
Oui, s'il vous plaît.
On se retrouve lundi dans Allo Europe 1 avec cette question essentielle. Faut-il simuler l'orgasme ? Voilà. Je vous laisse réfléchir là-dessus tout au long du week-end. On se retrouve lundi à 10h.